Aristote, La politique, traduction Jules Barthélemy Saint-Hilaire, livre 1. Chapitre 1, sommaire. De l'État, origine de la société, elle est un fait de nature. Élément de la famille, le mari et la femme, le maître et l'esclave. Le village est formé de l'association des familles. L'État est formé de l'association des villages. Il est la fin de toutes les autres associations. L'homme est un être essentiellement sociable. Supériorité de l'État sur les individus, nécessité de la justice sociale. Paragraphe. Tout État est évidemment une association, et toute association ne se forme qu'en vue de quelque bien, puisque les hommes, quels qu'ils soient, ne font jamais rien qu'en vue de ce qui leur paraît être bon. Évidemment, toutes les associations visent à un bien d'une certaine espèce, et le plus important de tous les biens doit être l'objet de la plus importante des associations, de celle qui renferme toutes les autres. Et celle-là, on la nomme précisément État et association politique. Paragraphe 2. Des auteurs n'ont donc pas raison d'avancer que les caractères de roi, de magistrat, de père de famille et de maître se confondent. C'est supposer qu'entre chacun d'eux, toute la différence est du plus au moins sans être spécifique. Qu'ainsi, un petit nombre d'administrés constituerait le maître, un nombre plus grand le père de famille, un plus grand encore le magistrat ou le roi. C'est supposer qu'une grande famille est absolument un petit état. Ces auteurs ajoutent, en ce qui concerne le magistrat et le roi, que le pouvoir de l'un est personnel et indépendant, et que l'autre, pour me servir des définitions mêmes de leur prétendue science, est en partie chef et en partie sujet. Paragraphe 3. Toute cette théorie est fausse. Il suffira pour s'en convaincre d'adopter dans cette étude notre méthode habituelle. Ici, comme partout ailleurs, il convient de réduire le composé à ses éléments indécomposables, c'est-à-dire aux parties les plus petites de l'ensemble. En cherchant ainsi quels sont les éléments constitutifs de l'État, nous reconnaîtrons mieux en quoi diffèrent ces éléments, et nous verrons si l'on peut établir quelques principes scientifiques dans les questions dont nous venons de parler. Ici, comme partout ailleurs, remonter à l'origine des choses et en suivre avec soin le développement est la voie la plus sûre pour bien observer. Paragraphe 4. D'abord, il y a nécessité dans le rapprochement de deux êtres qui ne peuvent rien l'un sans l'autre. Je veux parler de l'union des sexes pour la reproduction. Et là, rien d'arbitraire. Car chez l'homme, aussi bien que chez les autres animaux et dans les plantes, c'est un désir naturel que de vouloir laisser après soi un être fait à son image. C'est la nature qui, par des vues de conservation, a créé certains êtres pour commander et d'autres pour obéir. C'est elle qui a voulu que l'être doué de raison et de prévoyance commandât en maître. De même encore que la nature a voulu que l'être capable, par ses facultés corporelles, d'exécuter des ordres, obéit en esclave. Et c'est par là que l'intérêt du maître et celui de l'esclave s'identifient. Paragraphe 5. La nature a donc déterminé la condition spéciale de la femme et de l'esclave. c'est que la nature n'est pas mesquine comme nos ouvriers. Elle ne fait rien qui ressemble à leur couteau de Delphes. Chez elle, un être n'a qu'une destination, parce que les instruments sont d'autant plus parfaits qu'ils servent non à plusieurs usages, mais à un seul. Chez les barbares, la femme et l'esclave sont des êtres de même ordre. La raison en est simple. La nature, parmi eux, n'a point fait d'être pour commander. Entre eux, il n'y a réellement union que d'un esclave et d'une esclave. Et les poètes ne se trompent pas en disant « Oui, le grec au barbare a droit de commander », puisque la nature a voulu que barbare et esclave se fût tout un. Paragraphe 6. Ces deux premières associations, du maître et de l'esclave, de l'époux et de la femme, sont les bases de la famille. Et Hésiode l'a fort bien dit dans ce vers. La maison, puis la femme et le bœuf laboureur. Car le pauvre n'a pas d'autre esclave que le bœuf. Ainsi donc, l'association naturelle de tous les instants, c'est la famille. Carondas a pu dire, en parlant de ses membres, qu'ils mangeaient à la même table. Et Épiménide de Crète, qu'ils se chauffaient au même foyer. Paragraphe 7. L'association première de plusieurs familles, mais formée en vue de rapports qui ne sont plus quotidiens, c'est le village, qu'on pourrait bien justement nommer une colonie naturelle de la famille, car les individus qui composent le village ont, comme s'expriment d'autres auteurs, sucé le lait de la famille. Ce sont ses enfants et les enfants de ses enfants. Si les premiers États ont été soumis à des rois, et si les grandes nations le sont encore aujourd'hui, c'est que ces États s'étaient formés d'éléments habitués à l'autorité royale, puisque dans la famille, le plus âgé est un véritable roi. Et les colonies de la famille ont filialement suivi l'exemple qui leur était donné. Homère a donc pu dire « Chacun à part gouvernant maître ses femmes et ses fils ». Dans l'origine, en effet, toutes les familles isolées se gouvernaient ainsi. De là encore, cette opinion commune qui soumet les dieux à un roi. Car tous les peuples ont eux-mêmes jadis reconnu ou reconnaissent encore l'autorité royale. Et les hommes n'ont jamais manqué de donner leurs habitudes aux dieux, de même qu'ils les représentent à leur image. Paragraphe 8. L'association de plusieurs villages forme un état complet, arrivé, l'on peut dire, à ce point de se suffire absolument à lui-même, né d'abord des besoins de la vie et subsistant parce qu'il les satisfait tous. Ainsi, l'état vient toujours de la nature, aussi bien que les premières associations dont il est la fin dernière. Car la nature de chaque chose est précisément sa fin. Et ce qu'est chacun des êtres quand il est parvenu à son entier développement, on dit que c'est là sa nature propre, qu'il s'agisse d'un homme, d'un cheval ou d'une famille. On peut ajouter que cette destination et cette fin des êtres est pour eux le premier des biens. Et se suffire à soi-même est à la fois un but et un bonheur. Paragraphe 9. De là, cette conclusion évidente que l'État est un fait de nature, que naturellement l'homme est un être sociable et que celui qui reste sauvage par organisation et non par l'effet du hasard est certainement ou un être dégradé ou un être supérieur à l'espèce humaine. C'est bien à lui qu'on pourrait adresser ce reproche d'Homère, sans famille, sans loi, sans foyer. L'homme, qui serait par nature tel que celui du poète, ne respirerait que la guerre, car il serait alors incapable de toute union, comme les oiseaux de proie. Paragraphe 10. Si l'homme est infiniment plus sociable que les abeilles et tous les autres animaux qui vivent en troupe, c'est évidemment, comme je l'ai dit souvent, que la nature ne fait rien en vain. Or, elle accorde la parole à l'homme exclusivement. La voix peut bien exprimer la joie et la douleur. Aussi, ne manque-t-elle pas aux autres animaux, parce que leur organisation va jusqu'à ressentir ces deux affections et à se les communiquer. Mais la parole est faite pour exprimer le bien et le mal, et par la suite aussi le juste et l'injuste. Et l'homme a ceci de spécial parmi tous les animaux, que seul il conçoit le bien et le mal, le juste et l'injuste, et tous les sentiments de même ordre qui, en s'associant, constituent précisément la famille et l'État. Paragraphe 11. On ne peut douter que l'État ne soit naturellement au-dessus de la famille et de chaque individu, car le tout l'emporte nécessairement sur la partie, puisque le tout, une fois détruit, il n'y a plus de partie, plus de pieds, plus de mains, si ce n'est par une pure analogie de mots, comme on dit une main de pierre, car la main séparée du corps est tout aussi peu une main réelle. Les choses se définissent en général par les actes qu'elles accomplissent et ceux qu'elles peuvent accomplir, dès que leur aptitude antérieure vient à cesser. On ne peut plus dire qu'elles sont les mêmes, elles sont seulement comprises sous un même nom. Paragraphe 12. Ce qui prouve bien la nécessité naturelle de l'État et sa supériorité sur l'individu, c'est que, si on ne l'admet pas, l'individu peut alors se suffire à lui-même, dans l'isolement du tout, ainsi que du reste des parties. Or, celui qui ne peut vivre en société et dont l'indépendance n'a pas de besoin, celui-là ne saurait jamais être membre de l'État. C'est une brute ou un dieu. Paragraphe 13. La nature pousse donc instinctivement tous les hommes à l'association politique. Le premier qui l'institua rendit un immense service. Car si l'homme parvenu à toute sa perfection est le premier des animaux, il en est bien aussi le dernier quand il vit sans loi et sans justice. Il n'est rien de plus monstrueux, en effet, que l'injustice armée. Mais l'homme a reçu de la nature les armes de la sagesse et de la vertu qu'il doit surtout employer contre ses passions mauvaises. Sans la vertu, c'est l'être le plus pervers et le plus féroce. Il n'a que les emportements brutaux de l'amour et de la faim. La justice est une nécessité sociale, car le droit est la règle de l'association politique, et la décision du juste est ce qui constitue le droit.